j'ai l'impression, voilà, qu'ils veulent casser le game en disant mais c'est pas un casque. Fais-nous la paix, c'est pas un casque, c'est un ordinateur spatial. Ça correspond pas à ce qu'il existait auparavant.
Cela ne vous a probablement pas échappé, comme chaque année, Apple annonce beaucoup de nouveautés lors de sa traditionnelle conférence mondiale des développeurs. Les nouveautés de cette édition 2023 sont nombreuses. Nouvelles versions d'iOS, d'iPadOS, de WatchOS, de macOS, amélioration des AirPods Pro, nouveau MacBook Air 15 pouces, nouvelle version du Mac Studio avec la toute nouvelle puce M2 Ultra, la puce la plus puissante pour un ordinateur personnel. One more thing, oui, one more thing, et pas qu'un peu, avec Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte qui ouvre l'ère de ce qu'Apple nomme le Spatial Computing. Apple Vision est bluffant, se contrôle par les yeux, la voix et de simples mouvements de votre main et ne nécessite pas de manette. Et une fois posé sur votre tête, vous ouvre des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Que traduisent ces annonces de la stratégie de la marque à la pomme pour les prochaines années ? Et pour nous tous, qu'est-ce que ça va changer ? Quelles sont les grandes transformations qui sont devant nous ? Pour en savoir plus, bien décrypter et bien comprendre ce que révèlent les annonces d'Apple lors de cette WWDC 2023, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Olivier Frigara, fondateur de On Refait le Mac. Bonjour Olivier.
Bonjour Gauthier, comment ça va?
Ça va très bien ce matin, la grande pêche. Merci de t'être rendu disponible, toi qui as dû prendre un kiff terrible hier soir. Olivier, ouais. Avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que tu retiens de la prestation d'Apple lors de cette édition 2023 de la Conférence mondiale des développeurs?
Fait tout simple, on reproche, et on le disait souvent dans les équipes de Refait le Mac, que Apple et Tim Cook en particulier étaient assez prudents dans ses choix de lancement de produits, qu'il avait un petit peu le pied sur le frein ces dernières années. En faisant des mises à jour incrémentales. Tu as parlé d'iOS, d'iPadOS, des Macs qui passent du 13 au 15 pouces, des iPhones qui grandissent, des iPhones qui rapetissent. Là, on a vraiment une projection sur un produit qui ressemble à rien ce qui existe aujourd'hui et qui a un pari sur l'avenir. L'enjeu, c'est est-ce que le pari va être réussi. Et là, pour une fois, on a un petit kiff en tant que geek et fan d'Apple de se dire ils ont pris un vrai risque et tentent une nouvelle expérience très ambitieuse, en tout cas pour l'avenir.
Ouais, c'est impressionnant, ça change beaucoup de choses, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que tu as perçu comme transformations qui vont s'opérer ? On parlera du prix peut-être après. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette présentation d'Apple Vision Pro ?
Outre le produit en lui-même, hein, et la projection, les usages, hein, tu l'as très bien résumé dans ton intro, hein, c'est que... Il n'y a pas de manette, c'est très instinctif, c'est l'interface, c'est très dans l'ADN d'Apple, ça semble très ergonomique et très simple. Ça reste des démos, hein, on l'a pas, tu l'as bien compris, eu en main. Encore, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, Apple n'a pas une seule fois, et Tim Cook n'a pas une seule fois parlé de casque, de lunettes, n'a pas parlé une seule fois de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, hein, comme on le disait en préparant cette émission ensemble, mais il se projette dans une nouvelle ère, celle de l'informatique spatiale. Alors, en français ça sonne mal, mais après l'informatique de bureau, l'informatique le computer de classique qui était le premier Mac avec l'interface graphique, après l'informatique nomade avec le smartphone propre à l'iPhone, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la projection dans l'informatique spatiale. C'est-à-dire, voilà, avec ce casque, on peut travailler, on peut diffuser des écrans géants, des claviers. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre, qui matérialise des rêves de geek et de science-fiction. C'est assez étonnant.
Ouais, Uber nous dit c'est un ordinateur spatial. Voilà, ça ouvre un champ. C'est vrai que dans les démos qu'on a pu voir hier, moi, peut-être celle qui m'a le plus bluffé, c'est celle de ce FaceTime à plusieurs dans un salon où on est dans son propre salon et paf, viennent se rajouter les différents participants. Peut-être question, tiens, pour toi, il est pour qui cet Apple Vision Pro ?
Ben, on voit bien que c'est aujourd'hui, ils lâchent une nouvelle plateforme. Comme ils ont lancé il y a plusieurs années maintenant, le temps de Steve Jobs, l'iPhone, et ses utilisateurs de choisir ce qu'ils allaient en faire. Au départ, l'iPhone, c'est avant tout un objet pour téléphoner. Aujourd'hui, c'est un objet, grâce aux développeurs, qui s'est développé et dont les usages se sont totalement élargis. L'éventail est infini. Voilà, c'est les développeurs qui vont s'en saisir et qui vont faire de cet objet un objet qui, j'espère, sera indispensable demain, du moins pour Apple. Aujourd'hui, on se limite aux usages propres aux applications internes de la machine, hein, des applications internes qu'on utilise pour l'iPhone. Tu as parlé de FaceTime, tu as parlé de vidéo, tu as parlé de plein de choses comme ça. Donc les usages, c'est aux développeurs et aux utilisateurs de les définir pour l'avenir. Moi, mon kiff, c'est de se dire, j'ai besoin de 4 écrans 55 pouces, j'appuie sur un bouton, j'ai 4 écrans qui s'affichent devant moi pour pouvoir bosser ou regarder un film, quoi. C'est juste la matérialisation d'un rêve de vieux geek, quoi.
Donc le geek est comblé, voilà, il y a c'est Guillaume qui nous dit, ouais, c'est pour les devs, hein, le Apple Vision Pro, il est d'abord pour les devs. Il nous signale, tiens Guillaume aussi, Microsoft, Excel, Word et Teams seront dispo sur le Vision Pro. C'est pour une cible plutôt professionnelle de ton point de vue ?
Évidemment, dans un premier temps, on voit bien l'avantage que ça peut avoir en matière de visioconférence, en matière de projection, en matière d'immersion, hein, c'est évident. Mais petite parenthèse, on comprend mieux pourquoi il y a autant de rumeurs qui ont circulé depuis des mois. Car ce casque, pour pouvoir convaincre les différentes marques et faire des démos, ils l'ont présenté à plein de gens, donc ça a forcément fuité, et c'était voulu, ça j'ai évidemment par un peu, pour créer une certaine attente et une certaine, recréer le phénomène qu'on a eu autour de l'iPhone il y a quelques années, et qu'on ne dise pas qu'Apple n'instrumente pas la rumeur, là on en a une preuve flagrante que tous les éditeurs qui ont participé de près ou loin à ce casque, ils savaient très bien qu'ils allaient à un moment donné parler, et c'est ça qui a créé autant de rumeurs ces derniers mois.
Ah, tiens, Patrick nous signale aussi que Zoom et le WebEx de Cisco seront disponibles. Tiens, question pour toi, c'est la question de Vincent. Pourquoi Apple réussirait là où Meta, Microsoft et Google n'ont pas encore réussi ?
Parce que d'abord, ils sont dans un écosystème, un vrai écosystème. Ils ont une vraie façon de faire, on l'a vu hier soir, une interface qui est très simple d'emploi. Il ne s'adresse pas, encore une fois, uniquement à des éditeurs de jeux vidéo ou à des joueurs, comme pourrait le faire Sony ou Meta avec le Quest. C'est véritablement une projection tout à fait différente. L'enjeu, il est bien au-delà. L'idée, c'est de casser un plafond de verre, c'est de rendre accessible ce type d'objet à n'importe qui. Ce n'est pas simplement un gamer et accessible, à savoir même ma grand-mère était capable d'utiliser un iPhone. C'est ça que je me suis dit, là, il va se passer quelque chose. Voilà. Et au-delà, le rendre désirable, c'est-à-dire pouvoir donner envie de mettre un casque sur les yeux sans forcément entraîner, je dirais, tout ce qui est lié, à savoir le problème, est-ce qu'on ne va pas rester isolé, est-ce que c'est compliqué, est-ce que la qualité d'image va être mauvaise, voilà. C'est d'avoir une intégration, interface, logiciel, matériel, parfaite, et qui de mieux qu'un constructeur et un éditeur d'interface pour le faire. C'est l'un des rares acteurs du marché à l'avoir réussi jusqu'à maintenant. Ils l'ont fait avec l'iPhone, ils l'ont fait à moindre mesure avec l'Apple Watch, ils l'ont fait avec le Mac.
Hubert, tiens, de son côté, dit « c'est l'ordinateur corse, tu fais la sieste, tu as tout à portée de main, c'est un ordinateur de feignant ». C'est peut-être un des critères de réussite. Je sais qu'il te taquine parce que je sais que tu es corse. C'est un critère de réussite ? C'est un critère de réussite ?
Non, mais c'est évident. Voilà, aujourd'hui, Apple, on sait qu'ils ont une parfaite intégration matérielle logicielle. C'est ce qui est la force de l'iPhone aujourd'hui par rapport à Android et les smartphones. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à développer une solution matérielle qui économise l'énergie par rapport à la concurrence parce qu'ils conçoivent l'ensemble de la chaîne matérielle et logicielle. Donc, c'est ça la force d'Apple aujourd'hui avec cet Apple Vision. Mais encore une fois, on est au début d'une nouvelle ère ou si ère il y a. Et il faut convaincre, il y a beaucoup d'embûches qui se présentent face à Apple, on le sait. Hein. Jusqu'à maintenant, le secteur du casque de réalité virtuelle est augmenté, c'était plutôt le secteur des jeux. On sait qu'Apple, à part le casual gaming et l'iPhone, c'est un acteur, c'est un nain. On sait que c'est un secteur difficile. Hein. Meta, c'est un peu cassé les dents pour l'instant sur le métaverse. Hein. Ils ont remis le focus sur l'intelligence artificielle, mais encore une fois, moi je pense qu'on est au tout début. Et puis il faut l'essayer, il faut se projeter. Une fois qu'on aura essayé, qu'on aura une idée concrète de ce que pourra faire cet engin.
Ça va nous donner envie de l'essayer. J'en suis persuadé. Tiens, je vois les commentaires. C'est Christian qui répond dans Uber. Dit oui, c'est peut-être aussi un ordinateur pour prendre du poids. On va finir peut-être comme dans Wall-E. Justement, est-ce qu'on n'a pas un risque de s'enfermer finalement avec ce casque ? Parce que bon, dans une famille, si chacun se met à avoir le casque, nos rapports vont être extrêmement différents, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, c'est le danger et c'est la critique qu'on en fait. au métaverse en général, et c'est mon immersif. Hein. On le voit déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux et chez les jeunes, la manière dont ils vivent dans le monde virtuel. Donc l'enjeu, il est là. Le premier réflexe d'Apple hier soir a été de dire « Non, vous n'êtes pas isolé, regardez, c'est un casque de réalité augmentée. » Mix, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'avec la petite couronne digitale, la couronne numérique de votre, que vous avez sur votre Apple Watch, eh ben, vous l'avez la même sur vos lunettes et vous pouvez passer du monde réel au monde virtuel. Vous vous êtes pas isolé, vous voyez vos proches qui sont en train de passer autour de vous. Vous n'êtes pas dans un univers clos, opaque, et vous partagez avec eux. Et surtout, c'est l'idée amusante en termes de design et géniale. Après, on verra si ça fonctionne dans les faits. C'est d'avoir aussi un écran pour l'extérieur, pour les gens qui vous regardent, qui reflète vos yeux. Et qui vous montre en train de les regarder. Donc, vous n'êtes pas isolé. Ça, c'est une belle idée. Ça doit coûter très cher, par contre. C'est une belle idée. Maintenant, on verra encore une fois dans les usages qu'il en est. Moi, je me souviens toujours de ce que m'avait dit une fois Tony Fadell, qui est le papa de l'iPod, et là, des papas de l'iPhone. Le problème du numérique et des excès qu'on peut en avoir, c'est pas lié au constructeur. Il faisait un rabarré entre l'iPhone et le frigo. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'obésité aux États-Unis qu'il faut interdire la vente de frigo. Il faut avoir une démarche responsable. Il faut que les constructeurs aient une démarche responsable. Voilà. On a vu beaucoup de choses autour de ça, notamment à la WWDC hier soir sur les usages, sur la santé mentale avec iOS 17. Donc on sait que c'est des sujets qui ne tiennent qu'à Apple. Après, il y a une dose de marketing, il y a du storytelling, bien sûr. Mais il y a une approche. Là, l'enjeu pour Apple, c'est de faire passer ce message. Ce n'est pas évident, effectivement. Si l'interface est géniale, si les usages sont géniaux, si la techno, l'intégration est parfaite en termes de puissance, s'il n'y a pas de latence, comme semblent dire les premiers testeurs qui ont eu le chance de le tester hier soir à Cupertino, connaissant l'appétence pour des produits révolutionnaires, des produits qui sont vraiment forts en termes d'expérience, je ne suis pas inquiet sur le fait de convaincre. On dit que le prix aille à la baisse, bien sûr.
Okay, là, il y a baisse. On va reparler du prix dans quelques instants. Tiens, il y a eu des petites choses quand même qu'on a notées, tu le signalais. C'est Stéphane qui nous dit Apple n'a jamais cité le mot casque, ni n'a jamais parlé de métaverse et très très peu d'intelligence artificielle, alors que c'est bourré d'intelligence artificielle, hein, parce que pour, comme le signale Patrick, bah, faire une interaction œil, pouce, index, juste celle avec l'œil, il y a quand même beaucoup d'intelligence artificielle pour arriver à faire ça. Qu'est-ce que tu as aussi repéré je regardais dans les présentations, Hubert nous dit ouais, toutes les démos sont solitaires physiquement. Tu as remarqué aussi quelque chose, tu me disais ça dans la régie tout à l'heure, avec les dirigeants d'Apple et ce fameux Apple Vision Pro.
Aucun dirigeant d'Apple, que ce soit durant la keynote ou après la keynote, on les a vus porter le casque. Voilà. Donc quand on se souvient des torrents de critiques qui avaient découlé notamment sur Mark Zuckerberg lorsqu'il a baladé avec son casque, voilà. Donc et puis au-delà, j'ai l'impression voilà qu'ils veulent casser le game en disant mais c'est pas un casque. Foutez-nous la paix, c'est pas un casque, c'est un ordinateur spatial. Ça correspond pas à ce qu'il existait auparavant. C'est une nouvelle vision de l'informatique d'une nouvelle ère. L'idée, encore une fois, c'est bien sûr c'est un discours marketing, mais l'enjeu c'est de faire passer le message. Et puis bon, après il faut pas créer la déception en disant le casque, il me casse la gueule, il tombe, il est lourd, le fil qui se balade derrière. Il y a quand même de vrais freins à l'adoption de ce casque. On sait que, et pour ça que mon petit cœur de geek est content et à la fois saigne un petit peu, c'est de se dire voilà, on a réussi à casser le plafond de verre. Mais il y a des limites physiques avec ces câbles électriques qui vont se balader partout. Voilà. Et mon fils qui vient de se réveiller, mais tout va
bien. Ben c'est bien, c'est la famille. Toi, moi, j'aime bien. Ça fait un petit déjeuner en famille le matin quand on enregistre ce podcast. Christian dit d'ailleurs, c'est une grande force d'Apple de ne pas avoir cité tous ces mots fourre-tout, métaverse, IA, alors que ça fait le buzz, et de déplacer finalement le débat. Je voudrais qu'on revienne parce que tu as posé un peu la question sur le prix aux participants. Combien seriez-vous prêt à mettre pour avoir votre Apple Vision Pro? On a des éléments de réponse. Peut-être tu peux déjà nous donner le prix tel qu'il l'annonce. C'est que pour l'instant aux US et c'est pour l'année prochaine. C'est ça?
Oui, 3 500 $. Voilà, c'est le prix d'un gros, une grosse configuration de MacBook Pro portable, hein, de la MacBook Pro M2 Pro. Voilà, donc ça pique un peu, c'est évident. Mais quand on voit et quand on a commencé à voir la liste avec les équipes de Rochelle Mac hier soir, des différents composants qui étaient à l'intérieur, le nombre d'écrans 4K, le nombre de caméras, la puce M2, etc. Eh bien, on s'est dit, oui, ça va être difficile de l'avoir à 500 $, qui pour moi aurait été un prix un peu plus raisonnable. Mais voilà.
Et très grand public, oui. Voilà, ouais, c'est sûrement. Ouais. C'est vrai que je prends les commentaires de ceux qui sont présents, certains commentaires. 3 500 le Vision Pro, ça fait probablement 4 000 € pour la France. Hein. Jean-Emmanuel lui dit, oui, 3 400, accessible, mais pas pour le grand public. Le gap est quand même très grand. Après, peut-être qu'on peut rationaliser l'achat. Voilà, je sais.
Non, mais c'est pas un produit mass market, encore une fois. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'il y a. C'est vrai que ça peut créer une déception par rapport à ce qu'on a connu avec l'iPod, qui était accessible quasiment toutes les pièces. Quoique la première version était à 600 € quand même. Hein. On l'a un peu oublié. Avant de terminer en iPod Shuffle à moins de 100 €, il s'en est passé quelques années quand même. On est plus 50 ans quasiment, et oui, c'est le temps passe en arrière, bientôt, avec le premier Mac qui n'était pas accessible à toutes les bourses. Il n'était pas à 1 000 $ le premier Mac. Parce qu'il y avait un plafond de verre techno qui faisait qu'on ne pouvait pas le vendre à 1 500, 2 000 $, qui était plutôt réservé à ce temps-là à l'Apple II. Hein, il était à plusieurs milliers de francs et d'euros aujourd'hui. Il a fallu plusieurs années pour que le Mac se popularise. L'idée, c'est en combien de temps, comment on peut se projeter, sans jeu de mots, on peut se dire que cette techno, elle va se vulgariser et qu'on aura un device à l'échelle de 2, 3, 4 ans qui sera autour des 1 500 €. Déjà, il y aura une production qui va s'accélérer, hein, qui va qui va faire que les coûts vont baisser à vitesse grand V, on l'a vu dans tous les domaines. Hein. Et puis, dans un second temps, voire également, et qui constitue aujourd'hui le principal frein à son adoption, je dirais, par rapport à ce que constitue l'ADN d'Apple, c'est de se dire, il y a une batterie déportée avec un câble qui me court et qui va à la ceinture. Ça, c'est quand même, ça me rappelle les caméramans de notre foi, tu sais, ouais. ou mon premier iPod où j'avais l'avait à la ceinture et j'avais mes oreilles déportées. Alors, là, on est vraiment face à un plafond de verre techno, hein. On ne peut pas intégrer une batterie dans le casque, bien sûr on pourrait, mais en termes de poids, c'est un non-sens total. En termes de dégagement thermique, c'est un non-sens total. Donc, ils ont fait ce choix-là. Il y a aussi des progrès à faire de ce côté-là. Voilà. Mais encore une fois, le fait de produire sa propre puce, de produire ses propres interfaces, d'avoir une vision claire en matière de d'où on veut aller en matière de processing et d'intelligence artificielle, Apple est un acteur qui a vraiment des réponses à apporter par rapport à cela et est bien placé pour le faire. Et puis, excusez-moi, hein, ils ont quand même un cash flow derrière de dingue. Que beaucoup d'entreprises rêveraient avoir, hein. C'est le PIB de grands pays développés, et au-delà, ils ont un réseau de magasins phénoménal dans le monde entier, et c'est une formidable vitrine pour justement domestiquer, faire tester, donner envie autour de ces nouveaux usages-là. Mais encore une fois...
Ça, c'est l'arme fatale, hein. C'est l'arme fatale, ouais. le réseau de boutiques, c'est l'arme fatale pour lancer un produit comme ça.
C'est clair. Et encore une fois, on est au début d'un process. On est à l'arrivée du premier Mac, du premier iPhone, où il n'y a que les applications d'Apple qui sont disponibles. Voilà. Ce qui a fait le succès de l'iPhone, au-delà de sa simplicité, et puis sachant que le premier iPhone, il n'y avait même pas d'application qui était faisable au début, hein, souviens-toi, c'était des web apps. Hein, mm-hmm. C'était un an après que l'App Store a été ouvert. Mm-hmm. C'est la manière dont les développeurs sont opérés de cet objet et l'ont transcendé. Moi, la première fois que j'ai vu Shazam sur un iPhone, j'avais le menton qui touchait par terre. Ça aussi, c'est impossible. Comment on peut faire un truc pareil?
Ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Mais c'était tout bête, mais c'est juste une bonne idée. Ouais. Voilà. C'est comment les développeurs vont s'en charger, vont pouvoir s'acclimater et trouver de nouveaux usages et apporter une valeur ajoutée. Si c'est juste transposer le réel au virtuel, entre guillemets, la messe est quasiment dite. C'est d'aller plus loin en termes de divertissement, plus loin en termes de jeux vidéo, plus loin en termes de boulot. Parce que si moi, ce qui m'enthousiasme, c'est ce côté travail, se dire je rêve d'avoir une salle, une régie comme on a refait le Mac avec 5 écrans. Pour moi, j'appuie sur un bouton. Mais avant, c'est 5 écrans en pouce chez Apple, je laissais deviner le prix. Voilà. Alors ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on nous vend. Est-ce qu'on sera aussi fluide dans la réalité? Voilà. Mais les premiers retours qu'il y a de ces spécialistes de réalité augmentée et virtuelle, puisqu'Apple a invité pas mal de spécialistes de cet univers-là, histoire qu'ils diffusent leur retour. Hein. Donc, ils ont eu la chance de l'essayer pendant 30 minutes. Ils ont testé tous les cases du marché. Ils sont tous unanimes. Hein. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais vu ça en matière de réactivité. Il n'y a pas de latence. Après, c'est des protos, hein. Mais il n'y a pas de latence. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun apprentissage. C'est-à-dire un petit signe du doigt, voilà, et c'est parti. Et au-delà, ce qui est encore plus remarquable, c'est que là, il y a un vrai travail qui a été fait, c'est qu'à la fois c'est le doigt, mais c'est aussi l'œil qui pilote l'interface. Et il y a même, il anticipe même, c'est ça ce qui est assez bluffant et ce qu'on peut lire des premières personnes qui en off ont travaillé à ce projet, c'est-à-dire qu'il peut même deviner ce que, à terme que vous allez lancer dans l'application par les mouvements d'œil que vous allez faire. Voilà. Et ça, c'est assez bluffant et pas besoin d'un joystick, pas besoin de choses comme ça. Et moi, ça me rappelle véritablement Steve sur scène qui présente le premier iPhone et bah, vous avez besoin de zoomer. Non, Steve, vous êtes gentil, vous laissez ça au placard. Vous avez un doigt, c'est très bien. Et puis pour zoomer, bah, vous posez deux doigts et vous écartez. Voilà,
ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé.
Évidemment, ouais. On n'est pas sur la même échelle, mais c'est ça Apple aujourd'hui. Pour moi, c'est ça l'ADN d'Apple. Et si ce casque tient sa promesse, voilà, il y a véritablement. C'est une bonne nouvelle aussi hein, pour Facebook et pour.
Ça va tirer le marché. C'est plutôt une bonne nouvelle. Un grand merci, Olivier, d'être passé ce matin dans ce podcast. Un grand merci à toi. Merci. C'est un plaisir. Tu seras réinvité parce qu'il y aura d'autres rendez-vous chez Apple, je pense, à la rentrée. Avant l'automne, on aura des rendez-vous. Merci aussi à toi d'avoir écouté et participé à cet épisode de podcast. Allez, petite perspective. Tiens, je vais prendre deux, trois commentaires qui ouvrent en fait des possibles. Hein, quand on parlait du prix et quand on parlait effectivement du fait que ça puisse rencontrer son marché, deux facteurs qui, moi, me semblent importants. Le premier, c'est que nous étions à une conférence de développeurs hier et ce produit va sortir au début janvier 2024, février ou mars, on va dire premier trimestre. Ça laisse aux développeurs la possibilité d'imaginer énormément de choses, de travailler, de compléter le store. Et deuxième critère, et c'est l'ami Christian qui nous le dit, il sortira 2024, début 2024 aux États-Unis, peut-être pour l'été en France et pour les Jeux Olympiques. Imaginez ce que ça peut donner pour les Jeux Olympiques. Voilà, vous avez tout dans la tête, ça tombe bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Portez-vous bien, n'oubliez rien, prenez soin de vous surtout. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, soyez heureux. C'est parti, ciao.